Salut, c'est
Salut,
la
salut.
poulie.
C'est la poulie sur Radio Primitive, la revue de presse hebdomadaire. Puis, de quoi on va vous parler aujourd'hui?
Eh bien, moi, je vais vous parler des retraites, d'un petit mensonge du gouvernement sur les retraites.
Moi, je vous parlerai du procès qui a eu lieu concernant un éboulement du projet de poubelle atomique à Bure.
Moi ensuite, on ira en visite au salon Millipol avec CQFD et Pauline Laplace.
Et on reviendra peut-être sur les France Travail de la semaine dernière. Là, on a autre chose à vous dire. Bon, tout de suite, on va peut-être commencer par un petit agenda.
Qu'est-ce cela?
C'est le calendrier des télécoms.
Dans l'ordre, samedi 9 à Reims, une manif pour la journée internationale du droit des femmes. Je sais pas si tu as les détails du lieu de rassemblement.
Pas du tout.
Non, non, moi non plus. Bon, bah, désolé. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait à vous dire? Il y aura des rencontres à Bure, justement, au mois d'avril. Ça se déroulera du. Du 17 au 23 avril. Donc des rencontres contre le nucléaire, contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, évidemment. Tout ça dans une. Dans une thématique anti-autoritaire et libertaire. Voilà, il n'y a pas encore le programme définitif, il y a juste les dates, et du coup, on vous en reparlera dans les semaines qui viennent. Voilà, voilà. Et
ouais, y a des appels à se rassembler devant les préfectures et gendarmeries pour l'anniversaire de Sainte-Soline.
Voilà, pour les 1 an de la manifestation à Sainte-Soline contre les projets de méga-bassines. Je pense que tout le monde se souvient de ça. Et donc localement, il y a un rassemblement à Rethel. Pour Reims, je ne sais pas, y a rien qui est, j'ai rien vu passer pour l'instant. En tout cas, le samedi 23 mars à 14h, à Rethel, devant la sous-préfecture, voilà un rassemblement qui se veut brillant et musical, si j'ai bien compris. Voilà, pour commémorer, ou en tout cas ne pas oublier et montrer notre détermination dans ces luttes. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour des dates à venir. Et on s'envoie un peu de musique.
One in one in nuclear attack! We'll be right back.
On écoutait The Specials avec la chanson Man at CNA.
J'ai rien vu, rien entendu. Alors, on part au salon Millipol qui s'est passé au mois de janvier, je crois. Alors, c'est un article de Pauline Laplace pour CQFD. Dans mon salon, ça pue la mort. Chaque mois, la chronique Dans mon salon plonge dans l'univers des parcs d'exposition, sondant les méandres de la société marchande. Pour cet épisode spécial, on traverse Millipol, salon international de la sécurité intérieure des États, et on parle business de la répression. Millipol existe depuis 1984. Ce rassemblement de vieux gars qui s'acharnent à défoncer des tronches à travers le monde, poliment nommé Salon international de la sécurité intérieure des États, se déroule tous les deux ans au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Yann Junot, président de l'événement, nabab du secteur et ancien préfet des Hauts-de-Seine, se félicite ainsi de l'édition 2023 qui présente une hausse de participation de 40% par rapport à 2021 et rappelle que le marché mondial de la sécurité a enregistré une croissance de 4,5% en 2022. Rejoignons la fête, me dis-je, en ce gris mois de novembre. C'était en novembre, là, le salon. Problème, elle est réservée aux pros de la sécurité. Stratégie. Me diriger vers le seul mec de l'accueil, jouer la provinciale égarée et forcer mon accent du sud afin de conférer à mon interlocuteur un sentiment de supériorité intellectuelle suscitant un désir de charité. Bingo, muni d'un badge invité, je m'incruste parmi les leaders mondiaux de la sécurité. Alors que je me rêve en Charlie Chaplin au féminin, bernant l'autorité par des tours de passe-passe, mes fantasmes en noir et blanc sont rattrapés par une hideuse réalité, tout en couleurs bleu marine et kaki. Hormis les hôtesses d'accueil, on ne croise quasiment que des hommes dans le salon. Alignés devant les stands de flingues, ils testent leurs outils, concentrés comme face à des pissotières. Avançant dans leur dos avec l'impression d'assister à un spectacle impudique, partagé entre le dégoût qu'il m'inspire et les chocottes qu'il me flanque, je repère une cible facile, deux adolescents boutonneux. Mettant de côté le spectre des tueries de Colombie en 1999, je les interpelle. Ils lâchent leurs fusils et baissent les yeux, comme surpris en pleine branlette. Dépassé le moment de gêne, Clément et Hugo racontent être étudiants dans une école d'armurerie à Liège. D'où leur est venue la passion pour les armes ? Mon père est gendarme, répond le premier. Le mien est chasseur, répond le second. Alors que je flâne, au rayon des fringues, je ne tarde pas à rencontrer, aux surprises, une femme communicante pour la société italienne, Grassi. Elle explique que ses vêtements techniques sont confectionnés dans le respect des personnes, du territoire et de l'environnement. La preuve, sa boîte met en place vergers, bus et crèches pour les employés d'usines délocalisées en Roumanie. Quand j'évoque le fait que Grassi habille des militaires et pose la question du respect dans la guerre, ma copine se ferme. Ils sont là pour nous protéger, il faut bien qu'on les habille. Plus tard, je papote avec le représentant d'une entreprise finlandaise qui vend des tenues rembourrées pour l'entraînement aux techniques anti-émeutes. Comme il complimente mon sourire, je me sens en confiance et lui demande si je peux commander une de ses tenues pour un usage personnel. Il me parle de ses filles, féministes, inscrites dans des clubs d'autodéfense. Par le biais d'un de ces clubs, dit-il, je pourrais sans problème obtenir une armure. Honnête, je me confie. Mon hobby, c'est les manifs. J'ai pas peur dans la rue, sauf quand il y a des flics. Le sugar daddy me transperce du regard. Autre tentative d'achat au stand Semper Invicta, présentant des produits anti-agression, chic, sobres et destinés à des personnalités VIP. Pourquoi pas moi ? 15 000 euros, un parapactum. J'ai pas les moyens. Dommage, je kiffais ce parapluie pare-balles, issu du savoir-faire de la manufacture des parapluies de Cherbourg. C'est aussi le titre d'un film antimilitariste, dis-je à l'exposant. Je sens bien qu'il a pas la ref. Mary Poppins, peut-être ? Les révoltes de Hong Kong ? La picouse des services secrets bulgares ? Tant pis, je poursuis mon chemin et tente une dernière connexion avec une employée de la manufacture Regain, la maille, notre métier. C'est un peu osé comme slogan, non ? Elle comprend pas, j'explicite. L'argent, la maille, tout pour la thune. Elle se vexe, décidément, j'ai pas la cote. Changeons de décor. Le salon organise un cycle de conférences autour des JO. Maintenant que je m'y connais en confection, je suis sensible aux broderies ornant les costumes des orateurs. Le préfet Serge Boulanger et Christophe Abad, général de corps d'armée, se passent le micro, annonçant la mobilisation de 30 000 policiers et 17 000 agents de sécurité privée à Paris, ainsi que la transformation de la foire du trône en campement militaire. Devant la zone des entreprises israéliennes, je bloque devant le nom du pays en lettres peintes aux couleurs arc-en-ciel. J'aurais aimé causer pinkwashing, mais des flics attirent mon attention. Je les prends en filature et, singeant leur jargon, je note « 14h08, observons un groupe d'hommes type caucasien au déplacement suspect, vêtus de bleu et armés. L'un d'eux, crâne rasé et barbe au carré, parle plus fort que les autres. L'identifions comme le leader de la bande. 14h15, suivons les individus qui s'éloignent à vive allure, j'embarquais et en rang par deux. 14h20, assistons au rassemblement d'une centaine d'individus de ce type, formant bientôt une sorte d'escargot à la manière d'un balai sur le parvis. 14h45, identifions leur cible, il s'agit de 10 activistes aux mains peintes en rouge et portant une banderole « Stop Arming Israël ». Bon, j'avais repéré l'appel à manifester sur Paris Lutte Info et suis un peu déçu du nombre de participants. Mais l'action mobilisant un nombre de flics improbable révèle le non-sens des politiques sécuritaires, des dépenses excessives face à une menace inexistante. De retour dans le salon, je fais l'inventaire des mannequins incarnant la police sous toutes ses formes. Aux frontières, en prison, en camion, à moto, en canot, en jet ski, il y a même un CRS plongeur. Dans quel contexte peut-on le croiser ? Point d'interrogation. J'aperçois alors un vrai flic de la BRI, brigade de recherche et d'intervention, et me faufile dans un groupe venu l'écouter. Quand je réalise que le type à ma droite n'est autre que Jordan Bardella, au micro de CNews, il déclare « La classe politique française s'honorerait à défendre ceux qui portent l'uniforme. N'est-ce pas déjà le cas ?» Il est 17h, j'en ai ras-le-bol. J'erre à proximité du stand de Thalès. Sous des néons éclairés d'un blanc immaculé, des types en costard, trinquent au champagne, j'observe ces êtres à distance de tout, payés pour bousiller les vies par écran interposé, qui dévoilent à travers leur gestuelle un fort sentiment de toute puissance. Deux anciens amis se rencontrent devant moi. « Qu'est-ce que tu fais là ?» dit le premier. L'autre et l'autre de répondre « Bah tu vois, je suis devenu marchand de tapis. » Voilà, si seulement. Voilà, donc c'était un beau voyage au Salon de la Mort, organisé à Paris tous les deux ans. Voilà. Et ben un petit peu de musique hein, pour ce...
Voilà, on écoutait Opération du groupe Uranium Club. Et c'est dans le thème, parce que je vais vous parler du procès qui a eu lieu le 6 février. Le procès concernant l'éboulement mortel ils appellent ça un labo, au labo de Bure. Donc Bure, c'est qui avait eu lieu en 2016, voilà. En janvier 2016. Un éboulement qui avait provoqué, qui avait tué un ouvrier. Je vous lis ça. Le 6 février, s'est tenu au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, près de 8 ans après les faits, le procès concernant l'effondrement d'une galerie du Labo de Bure. Le 26 janvier 2016, tuant un conducteur d'engin et blessant un autre ouvrier. Y étaient convoqués des représentants des Phages, employeurs pour cette mission, et Antea France, maître d'œuvre. En 2016, le chantier employait 400 personnes, dont 160 agents de l'ANDRA et 240 salariés d'entreprises prestataires. Ce jour du 26 janvier, les deux techniciens de la société Eiffage étaient affairés à une opération de boulonnage quand le front de taille s'est effondré. Plusieurs mètres cubes de roche se sont soudainement abattus sur eux. Les avocats et avocates des deux entreprises ont plaidé d'une même ligne de défense, ne pas comprendre les causes de l'accident. Ce qui, disons-le, n'est pas très rassurant pour Cigéo, si à ce stade ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour le ministère public, s'il y a eu accident, c'est bien parce qu'il y a eu manquement au niveau de la sécurisation du chantier. Par exemple, ne pas utiliser de boulons de 6 mètres comme c'était pourtant autorisé, mais avoir recours à ceux de 12 mètres. Autre faute mise en avant par des rapports d'experts, le béton projeté, qui n'a pas été appliqué assez rapidement, laissant le front de taille à nu. Le procureur requiert 30 000 euros d'amende pour chaque entreprise. Le délibéré aura lieu le 4 avril prochain. Il y a un peu plus d'un an, interrogé en aparté sur cet homicide professionnel lors d'une réunion publique à Mandres-en-Barrois, l'ingénieur en charge de la sûreté de la sécurité dans les galeries, qui était alors en poste, nous a répondu qu'à chaque projet industriel, il y a inévitablement des morts. Il oublie de préciser qu'en 2016, l'éboulement dans les galeries n'était qu'à la phase test du projet, que le labo était alors, et est toujours, constitué de 2 km de galeries, à 500 mètres sous terre, alors que Cigéo en prévoit à terme plus de 270 km. Si le projet est validé, la DAC et la DAC ayant seulement été déposée, en effet, comme l'exprimait le collectif Burstop en janvier 2016, cet éboulement pose clairement la question de la stabilité réelle de l'argile souterraine dans laquelle pourrait être creusée Cigéo. Si des fractures souterraines liées notamment aux opérations de creusement des galeries apparaissent dans le laboratoire, qu'en sera-t-il si le centre de stockage souterrain est construit et connaît un tel accident alors qu'il est rempli de déchets radioactifs ? En mai 2022, un accident avait déjà coûté la vie à un mineur du groupement Fond Est alors que le forage atteignait 226 mètres de profondeur. Pour répondre de nouveau à cet ingénieur de l'ANDRA, combien d'ouvriers devront encore trouver la mort dans la réalisation du plus grand projet industriel européen qu'est Cigéo ? Quelle hypocrisie peut-on tirer de cette affaire alors que l'ANDRA a organisé avec France Travail ce même 6 février 2024 une opération de recrutement où ont été convoqués plus de 500 collégiens et collégiennes de 11 établissements meusiens et haut-marnais, ainsi qu'une centaine de demandeurs d'emploi pour un job dating avec les entreprises du nucléaire. Et quel cynisme peut-on voir dans cette affaire quand on apprend que l'ANDRA vient de signer en septembre 2023 un nouveau contrat à plus d'un million d'euros avec Antea France concernant les forages pour les mois à venir. Pour la présenter, Antea Group travaille principalement comme bureau d'études environnementales et notamment pour des industriels, des compagnies gazières et pétrolières et autres producteurs d'énergie pour des gouvernements et collectivités. Auparavant, Antea était une ancienne filiale du bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, bien connu dans le monde de l'extractivisme. D'ailleurs, le fait que le groupe compte plusieurs succursales en France-Afrique, Mali, Burkina Faso, Tchad et Bénin, ne laisse aucun doute sur ses activités néocoloniales. Antea France a entre autres réalisé la congélation des sols pour creuser les tunnels du Grand Paris Est. En 2020, il a également mené une étude à la demande de l'État concernant le déstockage de déchets à Stockamine en Alsace. La conclusion en a été que les conditions n'étaient pas réunies quant au déstockage des déchets toxiques, genre arsenic, mercure, amiante, cyanure, etc., qu'il fallait laisser enterrer malgré l'incendie survenu en 2002. Le siège social français est situé près d'Orléans. et l'entreprise compte près d'une vingtaine de bureaux en France. Et les filiales du groupe sont IRH Ingénieur Conseil, spécialisé dans la gestion et les traitements de l'eau, et ICF Ingénierie Environnementale en Île-de-France et activité de due diligence, et GeoID, gestion de données environnementales. Concernant Eiffage, l'entreprise est en charge des travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains pour Cigéo. Et récemment, elle a remporté l'appel d'offres pour les travaux de génie civil dans la construction des deux premiers EPR2 annoncés pour la relance à Penly pour plus de 4 milliards d'euros et un chantier de près de 4000 employés. À Bure, l'enfouissement de la merde nucléaire produit ces dernières décennies par l'industrie capitaliste cause irrémédiablement des risques et des dommages humains et environnementaux. Après quelques rafistolages en matière de sécurité, l'ANDRA a continué la mise en œuvre du projet Cigéo en demandant l'autorisation de la DAC en janvier 2023, encore en instruction. Des risques sont encore à craindre pour les années à venir si Cigéo est autorisé quant à la vie de nombreux ouvriers contraints par le système capitaliste salarial de descendre dans ces galeries pour pouvoir gagner leur vie. Le salon de recrutement du 6 février en atteste. La propagande tournée vers les collégiens et collégiennes de la région est particulièrement acerbée. Encore une fois, l'ANDRA n'en a rien à faire et poursuit sa fuite en avant, répondant aux injonctions d'une industrie mortifère en pleine relance. Combien de morts devront encore être comptées pour la réalisation du projet Cigéo ? Quand apprendrons-nous la nouvelle d'un nouveau décès dans les entrailles du projet Cigéo ? Par quelle pirouette de communication l'ANDRA réagira-t-elle ? Et d'ici combien de temps un incendie se déclenchera, comme ce fut le cas à Stocamine, au bout de 5 ans d'enfouissement des déchets toxiques ? Plus que jamais, il est temps de nous mobiliser contre le projet de poubelle nucléaire que crèvent la société industrielle et le capitalisme. Donc voilà, délibéré le 4 avril, on vous en reparlera, et c'est un texte qui a été publié sur burburbur.info.
Alors je vais vous passer tout de suite la nouvelle avant la fin de l'émission. Là, un petit rappel de la promesse qu'avait fait le gouvernement avant le passage de la réforme des retraites, où ils avaient dit que les retraites augmenteraient, seraient revalorisées de 100 euros. Bon, il s'avère qu'en moyenne, c'est 30 euros pour chaque retraité, et que les plus nantis sont revalorisés autour de 49 euros. Donc voilà, c'était juste pour signaler ça. C'était la contrepartie positive de travailler 2 ans de plus pour les futurs retraités, et ben ça n'existe pas.
Et moi, j'avais une petite précision à vous faire concernant le rassemblement à Rethel. Ça a lieu à Rethel pour justement que les gens des Ardennes, de l'Aisne, de la Marne puissent converger. C'est une sorte de point central pour ce rendez-vous. Pour ne pas, on ne pardonne pas, on n'oublie pas ce qui s'est passé il y a un an à Sainte-Soline. Voilà. Bon, on vous laisse. À la semaine prochaine. On vous laisse en musique et juste après, c'est le Big Bang. Bonne semaine.
Radio qui fait. Le Big